This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte The Wear en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'Histoire, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier, où quand le jazz retrouve ses repères. Cette semaine, de 1914 à 1918, ce sont les années qui voient émerger le jazz en pleine Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, 1916. La situation de guerre s'accentue. Les usines d'armement tournent à plein régime et peu à peu, les femmes entrent dans ces usines. Elles sont près d'un tiers de la population laborieuse. C'est l'année du premier recouvrement de l'impôt sur le revenu au taux de 10%. Le déficit public frôle les 14% du produit intérieur brut et l'inflation 14%. Le 9 janvier, l'Allemagne lance une offensive à nouveau en Champagne. Elle échoue et le 21 février, c'est la bataille de Verdun. Dès le matin du 21 février, à 7h12 exactement, l'artillerie allemande bombarde les positions françaises toute la journée sous un déluge de feu. Cette bataille de Verdun, commencée donc ce jour-là, le 21 février, ne s'achèvera réellement que le 11 décembre à 11h du matin. Au fond, la bataille aura duré quasiment une année. Le 27 avril, le gouvernement crée la qualification de mort pour la France. Distinction purement honorifique. Le pays se replie sur lui-même, tandis que la guerre s'enlise.
Maintenant, on dissèque devant les bleus l'anatomie d'une tranchée et les ouvrages de défense enterrés. On montre la tranchée principale, les postes de guet et les réseaux de barbelés. Derrière la tranchée principale, une tranchée de soutien, un réseau de tranchées d'accès et des tranchées de réserve. Ponctué de redoutes avec des centres de communication. En théorie, le système est parfait et les tireurs sont protégés derrière les parapets. En pratique, c'est un lacis de vases et de boue.
La guerre s'étend sur le front avec la bataille de la Somme. Les premiers chars d'assaut alliés apparaissent sur la Somme avec un certain succès et donnent l'avantage aux alliés qui font 4000 prisonniers. Le 15 septembre, le gouvernement émet l'emprunt de la défense nationale en rente à 5%, exempté d'impôts, mais non remboursable avant 1931. Dès octobre, l'État lance un deuxième emprunt de la défense nationale. Au plan culturel, c'est une année qui est assez riche. Dadaïsme et surréalisme apparaissent. À Zurich, le café Voltaire voit les premiers dadaïstes se réunir le 5 février. Tristan Tzara, Hans Arp et Richard Husselbeck dénonce l'absurdité de la guerre. Le 14 juillet, c'est le poète Guillaume Apollinaire qui crée le mot surréalisme et publie Le poète assassiné. Engagé volontaire, il sera blessé par un éclat d'obus à la tête et décédera des suites de sa blessure le 9 novembre 1918. Lénine publie L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et quant au ballet russe de Diaghilev, ils partent en tournée aux États-Unis.
Thank you.
extrait de la sonate pour violoncelle et piano de Debussy. Aux États-Unis, en 1916, c'est l'année de la disparition de Jack London. Empoisonnement ou suicide, l'auteur de Crocs blancs, de Martin Eden ou des Vagabonds des étoiles et de l'Appel de la forêt disparaît. Jack London connut un immense succès et fut un des premiers hommes de lettres à faire fortune par ses écrits. Down Home Rag, une interprétation de The Versatile Four, un groupe de quatre musiciens, comme son nom l'indique, enregistré le 3 février 1916, bizarrement dans le Middlesex, en Angleterre, en Grande-Bretagne. Ce quartet regroupe quatre musiciens, Gus Aston, Tony Tuck au banjo et à la voix, Charlie Mills au piano et Charlie Johnson à la batterie, que l'on entend longuement dans ce morceau, dont le jeu à la caisse claire, par moments, rappelle le jeu de caisse claire des bagades écossais ou irlandais. Alors, comme le cakewalk, dont nous avons parlé dans une émission précédente, le ragtime s'exporta vite, très vite, en direction du vieux continent. Il suffit de rappeler que Debussy a fait un Gollywood cakewalk et que Stravinsky a fait son piano rag music sur la même inspiration. Mais les quatre musiciens qu'on vient d'entendre donc gravèrent, bien que musiciens noirs, gravèrent ce morceau en Angleterre. Et ce qui montre bien que cette musique s'est très très vite exportée vers l'Europe. En 1916, donc, le président des États-Unis tente une médiation pour répondre au conflit européen. Il le tente, mais la Grande-Bretagne et la France s'y opposent. Les relations diplomatiques entre les USA et l'Allemagne se dégradent à la suite d'un second torpillage. On a parlé lors d'une émission précédente du torpillage de Lusitania. Et là, c'est le Sussex qui est coulé entre Folkestone et Dieppe par un U-boat allemand. Le Sussex était un ferry transportant essentiellement des civils. Et à nouveau, on y trouve évidemment des femmes, des enfants et des citoyens américains. La crise diplomatique est si forte que l'Allemagne, bien qu'en pleine guerre, doit renoncer à couler les vaisseaux civils ennemis. Sinon, les États-Unis menacent d'entrer en guerre, ce qu'ils feront d'ailleurs un an plus tard. En juin 1916, les États-Unis adoptent le scrutin secret dans tous les États de l'Union et le système des primaires directes. Le 7 novembre, Woodrow Wilson, le candidat sortant démocrate, est réélu. Et D.W. Griffiths, dont on a parlé du « Naissance d'une nation » précédent, sort un nouveau film intitulé « Intolérance ». Enfin, l'État américain décide que le « Star Spangled Banner » deviendra effectivement l'hymne national américain. Men Rag, enregistré en 1916 pour Columbia par son auteur Lucky Roberts. Voilà un pianiste à qui il est arrivé une drôle de mésaventure, puisqu'il a enregistré ces années-là deux morceaux en solo qui montrent bien la vigueur et la vitalité des pianistes à cette époque, mais il devra attendre 1946 pour pouvoir à nouveau enregistrer sous son nom. De fait, c'est un musicien peu connu mais de grand talent. On a pu l'entendre avec cet extrait. Selon la légende, lorsque la compagnie Victor voulut enregistrer l'original Creole Band de Freddie Keppard, celui-ci aurait déclaré, Rien à faire, on ne va pas mettre nos trucs sur disque pour qu'on nous les pique. Nul doute qu'il a dû s'en mordre les doigts au point qu'en 1926, il a quand même fini par enregistrer un Salty Dog. Salty Dog enregistré à Chicago, donc quelques années plus tard. On entendait en vocal Papa Charlie Jackson et Freddie Keppard l'interpeller durant le morceau. On a dit de ce musicien, Freddie Keppard, qu'il était probablement le meilleur cornettiste de son temps. Malheureusement, le peu d'enregistrements permet d'en douter, enfin en tout cas de faire des comparaisons. Probablement que les deux instruments qui ont le plus marqué la naissance du jazz sont les cuivres, cornets, trompettes, et puis le piano. Alors il est un musicien qui s'impose dès cette époque comme l'un des maîtres du piano solo. Il s'agit de James P. Johnson et nous écoutons « Eccentricity ». Ainsi s'achève cette valse excentrique de James P. Johnson pour l'année 1916. C'est le début du déclin pour la Nouvelle-Orléans. Chicago puis New York vont accueillir les meilleurs musiciens. Storyville va bientôt fermer et le quartier des prostituées ne servira plus de refuge aux musiciens de jazz. L'exode est commencé, les musiciens vont vers le nord. Demain, ce sera 1917.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.